Premier concert donc à noter dans votre agenda, ce sera mercredi prochain ici à l'auditorium ou bien au chaud chez vous, bien au frais dirions-nous plutôt. Ce sera à suivre évidemment en direct sur France Musique. Ensuite le chef et l'orchestre s'envoleront en Allemagne le 20 juin pour l'ouverture du festival Kissinger, Sommer à Bad Kissingen. Voilà donc pour bien ce grand moment, ces grandes années de collaboration entre Le Filard et Mikko Franck. Et c'est ainsi que s'achève cette soirée en direct sur France Musique. Merci à toute l'équipe. La musicienne metteuse en onde de ce concert était Alice Legros. À la prise de son, Jean-Louis Deloncle avec Jean-Baptiste Etchepare-Bord, Cindy Le Grumelec, Morgan Crézé et Éric Perruchot-Triboulet. Merci également à Adrien Roque qui était à la réalisation, Adrien Landivier à la technique et Thomas Guinegagne à la cabine. Merci aussi à Nelly Portal pour le site. Demain, vous avez rendez-vous avec Christophe Dillis dès 20h pour le concert du soir. Je vous souhaite une très belle fin de soirée à l'écoute de France Musique.
Les aventures d'Octave et Mélo. Une collection de podcasts France Musique à découvrir pour petites oreilles à partir de 3 ans.
Octave et Mélo, nos amis, voisins et musiciens, partent à l'aventure. À la mer, en ville, à la ferme ou à la montagne, ils en font des découvertes. Et la musique est toujours là pour les accompagner.
Les aventures d'Octave et Mélo, un podcast original France Musique d'Adèle Moll, à écouter sur le site et l'application Radio France.
300 bougies pour 4 saisons. Du lundi 9 au vendredi 13 juin, France Musique fête l'anniversaire de ce tube planétaire de Vivaldi. Rendez-vous dans toutes vos émissions de la semaine, de Musique Matin à Star du Classique, ainsi que dans les trésors de France Musique, en compagnie de Fabio Biondi à Venise. Un anniversaire à retrouver aussi sur le web, une tribune des critiques de disques consacrée aux 4 saisons et la saga musicale Vivaldi, les saisons du plaisir. Les 300 ans des 4 saisons de Vivaldi, c'est à vivre du lundi 9 au vendredi 13 juin sur France Musique et l'appli Radio France.
France Musique.
À suivre les grands entretiens, et nous restons en compagnie ce soir du chef Mikko Franck.
France Musique, les grands entretiens. Christian Merlin.
My name is Mikko Franck. I was born in Finland, in the city of Helsinki, on April 1st, 1979. I'm a conductor and the music director of the Orchestra Philharmonic Radio France, and most importantly, a human.
Mikko Franck, après plusieurs années comme chef invité itinérant, vous prenez au début des années 2000 vos premiers postes de directeur musical à demeure. Comment est-ce arrivé?
2002, when I was 23, I started.
À 23 ans, j'ai décroché mon premier poste de directeur musical pour l'Orchestre National de Belgique. J'y suis resté 5 ans, de 2002 à 2007, sachant qu'en 2006, j'étais aussi devenu directeur musical de l'Opéra National de Finlande, avec lequel je suis resté 7 ans. Plus précisément, j'y ai débuté comme chef d'orchestre principal, puis en 2007, je suis devenu directeur artistique et directeur d'opéra.
My job there was
Mon travail était très intéressant grâce à cette double casquette que j'avais, les responsabilités administratives qui en découlaient.
The personnel and everything. So it was also very administrative job where I stayed until 2013.
Puis, en 2013, je suis venu à Paris où j'avais été nommé pour commencer officiellement en 2015. Depuis 2002, j'ai donc ces postes fixes qui m'ont permis de réduire le nombre de prestations comme chef invité. Ici, à Paris, par exemple, je travaille avec l'orchestre 15 semaines par an, ce qui est beaucoup. Ça me donne moins de temps pour me déplacer chaque semaine. Depuis quelques années, j'ai un rythme plus fixe. Chaque été, je prends au moins 7 semaines de congé et en hiver, 2 fois 3 semaines. Ces congés sont sacrés et personne, pas même l'orchestre le plus passionnant, avec l'offre la plus tentante, ne peut me faire travailler à ce moment-là. Les vacances, c'est les vacances. Et c'est important de s'y tenir. Si on commence à céder d'une manière ou d'une autre, les vacances s'évaporent complètement. La vie ne peut pas être faite seulement de travail. Pour me donner bonne conscience, je me dis que si je ne m'accorde pas ce temps pour faire l'expérience du monde, comment m'est-il possible d'interpréter la musique et l'art ? Comment faire de l'art pour la société sans connaître cette société ? Si je ne faisais rien d'autre que travailler, comment pourrais-je interpréter l'émotion humaine dans la musique alors que je ne prendrais même pas le temps de la ressentir ? C'est pourquoi il est essentiel d'avoir un équilibre entre temps de travail et temps libre.
Et alors ces périodes de vacances que vous vous gardez, qui sont sacrées pour vous, je ne veux pas être indiscret, mais vous les utilisez comment ?
In the summers, my long holidays usually goes in Finland, in the countryside of Finland.
L'été, je vais généralement dans la campagne finlandaise, pour profiter du calme et de la tranquillité, les forêts, les lacs, les cygnes, tous les oiseaux, mais pas de musique classique.
D'accord.
C'est important pour moi de me reposer les oreilles et le cerveau.
I just listen to the sounds of the nature.
D'écouter les sons de la nature que je ne peux pas entendre dans les grandes villes qui sont si bruyantes en permanence. Et donc, quand je vais à la campagne, c'est un silence absolu. Et c'est là que je me rends compte à quel point je suis entouré de bruit le reste de l'année. Donc, je me nettoie l'esprit, les oreilles, et j'arrive même à entendre les battements de mon cœur. Au bout d'une semaine, les battements ralentissent. C'est là qu'on se rend compte à quel point le tempo de la vie est généralement si rapide. Mais après 7 ou 8 semaines à la campagne, cet empressement disparaît. Tout devient plus lent.
Try to spend as much as possible in the countryside of Finland because that's pretty much the only time in a year I get to go to Finland.
Je passe le plus de temps possible dans la campagne finlandaise parce que c'est pour moi la seule occasion d'y aller pendant l'année, à quelques exceptions près.
Helps me to keep a good connection.
C'est aussi un moyen de garder le contact avec mes racines, de parler le finnois.
Parce que vous ne le parlez pas beaucoup dans l'année, vous parlez surtout
only with my friends.
Non, seulement avec mes amis au téléphone. Mais autrement, je n'ai pas l'occasion de le parler.
I don't get to use Finnish. But the funny thing what happens then during the summer,
Ce qui est drôle, c'est que pendant l'été, au bout de quelques temps, je me remets à penser et à rêver en finnois. Et ça, c'est génial.
En finnois.
Yeah, I'm sleeping in Finnish now. And then it's like, whoa, it's important to keep.
C'est là que je vois l'importance de revenir aux racines.
And then, during the winter,
l'hiver.
When the weather in l'hiver, Finland is not that great,
je n'y vais pas,
so then I don't go there.
Parce que la météo est trop mauvaise. Je reste chez moi, la plupart du temps, à Tallinn,
en Estonie.
So I'm there and I like to cook. I spend a lot of time.
Et ma grande marotte, c'est la cuisine. J'y consacre beaucoup de temps.
Qu'est-ce que vous faites?
Ce que j'aime en particulier dans la cuisine, c'est quand je peux vraiment prendre mon temps.
Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment vous avez eu ce rapport à la nature et à l'importance de la nature et de la campagne, vous qui avez grandi en ville quand même? Vous nous avez dit que vous êtes né à Helsinki et que vous avez grandi comme un citadin.
In Finland, the nature is very, very present. Well, we have like 200,000
lakes. En Finlande, la nature est toujours très présente. Nous avons 200 000 lacs.
It's forest. So that's something.
Le pays est principalement recouvert de
forêts.
C'est une réalité du quotidien pour tous les Finlandais. Et on l'entend aussi dans la musique.
Sibelius, for example.
Oui, la musique de Sibelius est imprégnée de la nature.
It's about his,
exactement. Il y a ces grandes étendues qu'il connaît si bien.
Big space, or then the swans,
les cygnes sur le lac. La nature, en tout cas, est omniprésente.
On parle parfois du chant des cygnes dans la cinquième symphonie de Sibelius à la fin. Je ne sais pas si c'est vrai que ce thème lui est apparu en voyant des cygnes s'envoler, mais en tout cas, c'est très parlant.
In my opinion, Sibelius was really a master of portraying the nature in the music. So if you listen,
pour ce qui est de dépeindre la nature, je crois que Sibelius est un maître.
You can feel the nature. I think
par sa musique, on peut ressentir, on peut comprendre cette nature.
But when we speak about the Finnish
mais
nature,
si on parle toujours de la beauté de la nature finlandaise, cette nature, nature est aussi très dure.
So that you can feel also in the Sibelius music.
Il y a aussi cet aspect-là chez Sibelius.
Une dureté.
Cette dureté rocheuse.
C'est minéral.
And the roots are rather rough.
Donc oui, à la base, il y a cette rudesse qui existe aussi dans la langue finnoise.
In the Finnish language,
ouais.
Because the Finnish language,
en finnois,
on the fact that the
l'accent est toujours au début du mot.
Of the word. It's also the Finnish music.
Et c'est pareil dans la musique finlandaise.
Kind of
elle est rarement syncopée.
So we don't really
le rythme
syncopate
appuie souvent
like
le début. Toutes les langues
in
ne sont pas comme ça. En finnois, non seulement l'accent est donc en début de mot, il y a aussi beaucoup de doubles consonnes.
For example, my name is Mikko.
Mon prénom est Mikko.
Emphasis in the beginning and double K, Mikko.
L'accent est au début, double consonne, et c'est le type de dureté qu'on retrouve dans la musique finlandaise, je pense.
Franck, quel avantage y a-t-il à être directeur musical plutôt que chef invité?
It's nice sometimes, you know, every once in a while to go and visit an orchestra. You know, to have.
C'était pas désagréable de temps en temps de rendre visite à un autre orchestre,
anyway,
d'avoir cette petite aventure d'un soir, comme qui dirait. Mais en musique, comme dans la vie, je préfère les relations longues. C'est là qu'on voit le résultat d'un travail, qu'on va bien plus en profondeur dans la musique.
You don't have to start from all over again.
Plutôt qu'un processus qui recommencerait chaque semaine de zéro, on poursuit un travail déjà entamé. Avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, par exemple. J'ai commencé comme directeur artistique en 2015. C'est donc aujourd'hui ma huitième saison en leur compagnie. et nous avons fait un fantastique voyage ensemble, humainement et musicalement. Au fil de ces années, nous en avons appris beaucoup les uns des autres. J'ai compris comment les musiciens fonctionnaient naturellement. Je n'ai même plus besoin de leur demander ce que je veux. Ils le savent déjà à l'avance. Et ça, c'est merveilleux.
Mais ce n'est pas un danger aussi qu'il y ait la routine, qu'il y ait trop d'habitudes?
Ce n'est pas une question de routine ici. Il s'agit, par exemple, de savoir quel son je préfère en général. Ce son, bien sûr, s'adapte au répertoire, mais il y a des caractéristiques de base que je veux toujours entendre. Un son qui soit toujours expressif, toujours rond, et qui garde un espace pour souffler. La musique doit pouvoir respirer. Autre exigence. Par exemple, si un crescendo est marqué à partir d'une mesure donnée, il démarre exactement sur cette mesure, pas une mesure plus tard. S'il est sur deux mesures, il faut le préparer pour qu'il s'étale bien sur cette durée. Il peut être plus lent, plus rapide, ainsi de suite. Je suis très attaché aux indications des compositeurs. Il faut faire ce qui est écrit sur la partition parce que, généralement, ça fonctionne bien mieux de cette manière. Mais, autre point essentiel, il est aussi important de s'écouter les uns les autres que de jouer.
Est-ce que c'est ça le secret? Parce que une des choses qui me frappe dans vos interprétations, en particulier quand vous dirigez à l'auditorium de Radio France, qui est une salle petite par rapport à d'autres, donc qui peut facilement être très sonore si on a un grand effectif, comme dans des Strauss par exemple, eh bien c'est que avec vous ça n'est jamais trop fort et on a toujours cette impression de clarté des plans sonores, c'est-à-dire de tout entendre à tout moment, alors que ce sont des œuvres où souvent la tentation est là de faire un gros son finalement. Est-ce que c'est ça le secret, c'est que chacun s'écoute?
In my opinion, one of the biggest misconceptions about the music of Richard Strauss is that when people think it's something very heavy.
Pour moi, une des plus grandes méprises quand on parle de Richard Strauss, c'est de le penser sous l'angle de la dureté et de la force. C'est vrai que l'orchestration est d'une grande intensité, mais je ne crois pas que la musique de Strauss ou de Wagner doive être jouée lourdement ou fort. Pour moi, elle est bien plus proche d'une musique de chambre. C'est le cas pour les opéras de Wagner et les poèmes symphoniques et les opéras de Strauss. Encore une fois, il y a besoin de transparence, d'espace, de respiration dans le son. Si on joue à un volume trop fort ou avec trop de force, on n'entend plus toutes les mélodies, les contre-chants et autres. L'agencement des différents éléments est tel que si on ne met pas en valeur ce qui est nécessaire, on n'entend plus rien. C'est pourquoi il faut préserver en permanence la transparence et la légèreté du son, tout en gardant l'expressivité, l'émotion dans la musique. Cette année, avec l'Orchestre Philharmonique, nous jouons justement les poèmes symphoniques de Richard Strauss. Je les ai choisis comme thème pour cette saison, non seulement car ce sont des œuvres centrales dans mon répertoire et elles me sont chères. Mais c'est aussi parce que ça met l'orchestre au défi de donner un son plein sans être trop fort.
To challenge ourselves to give a full sound which is still not too loud. So basically, it's about.
C'est donc une question de qualité et non de quantité.
But that's something.
Mais c'est pareil pour les opéras de Wagner.
Wagner.
Ouais. Certains parlent de lourdeur dans cette musique, mais au contraire, c'est de la musique de chambre.
Il y a plus de pianissimo que de fortissimo au final.
Oui, oui. La partition indique fortissimo ou forte.
Ok, it says fortissimo or forte, but not.
Mais tous les fortissimo ne sont pas les mêmes.
If you have fortissimo in this piece,
en fonction du compositeur et même du morceau, ils peuvent avoir des significations très différentes. Tout est relatif. Un forte n'est pas nécessairement fort, mais il doit être différent d'un piano. Mais ça ne se mesure pas en décibels, sur des critères absolus.
Absolutely forte is between this and that and fortissimo. No, everything is relative. It depends.
Il dépend de ce qu'on a entendu précédemment et de ce qui le suit.
Like in life.
C'est comme dans la vie.
J'aimerais qu'on revienne au début de votre relation avec le Philharmonique de Radio France. Vous dites que vous êtes directeur musical depuis 2015. Moi, j'ai un souvenir absolument extraordinaire. C'est le 13 octobre 2012. On vous connaissait déjà. Vous étiez régulièrement l'invité de l'orchestre. Et puis, Myung-Woon Chung, qui était le directeur musical à l'époque, devait diriger Tristan et Isolde en version de concert. Ça devait être un des grands événements musicaux de l'année. Et il a dû annuler ce concert. On vous a appelé. Combien ? Une semaine avant ?
Well, actually, yeah. They called me, I think, like 4 days before. Four days before the rehearsal where.
Je crois qu'on m'avait appelé 4 jours avant le début prévu des répétitions. À ce moment-là, je connaissais très bien l'orchestre. Nous avions beaucoup travaillé ensemble. Et à chaque fois que je recevais un appel pour cet orchestre, j'acceptais toujours avec plaisir. Cette fois, on m'a proposé Tristan et Isolde. Je leur ai répondu, je préfère décliner. Tout d'abord parce que tout ce que je connais, c'est l'ouverture et la fin, la mort. Mais entre les deux, il y a 5 heures de musique que je ne connais pas. Donc, désolé, je ne peux pas. Le lendemain, on m'a rappelé pour me redemander la même chose. 3 jours avant la répétition. J'étais à Helsinki, donc je leur ai dit que j'allais prendre le temps d'y réfléchir. Je me suis rendu à la bibliothèque de l'Opéra National de Finlande. J'ai lu la partition et j'ai dit oui. Je me suis demandé si je n'étais pas fou, parce que je devais apprendre les 5 heures et quelques de Tristan et Isolde en 3 jours.
Et
à l'époque, je n'avais pas dirigé beaucoup d'opéras de Wagner, à part Parsifal. Mais je connaissais au moins le langage musical de Wagner. J'avais trouvé une manière de l'interpréter, selon moi.
And in fact, I have to say, actually, Wagner is.
Et je dois dire que Wagner est plutôt facile à diriger.
C'est ce que vous m'avez dit à l'époque. Ça m'a frappé.
Parce qu'il vous donne toutes les indications. Et si vous déroulez le fil de la musique, ce sont au moins 2 heures sans accroc. Il restera encore 3 heures. Mais si on continue de suivre les instructions de Wagner, ça reste facile.
C'est un peu ce que disait Wagner dans ses écrits sur la direction d'orchestre, où il disait que l'essentiel, c'est de trouver le tempo de base et que quand vous l'avez trouvé, finalement, vous laissez couler. Et c'est comme un flux, finalement.
Oui, ce premier tempo en début de soirée, c'est crucial chez Wagner. Il faut que ce soit le bon.
Because the rest of the 5 hours depends.
Tout ce qui se passe pendant les 5 heures qui suivent en dépend. Parce que tout est lié d'une manière ou d'une autre.
That's also, I mean, kind of an interesting thing. That, for example, if you think about.
Regardez Parsifal, par exemple.
For example, Parsifal.
Selon le chef d'orchestre, le premier acte peut durer entre 1h45 et 2h20.
C'est vrai.
C'est une différence énorme. Et tout ça dépend du premier tempo. Pour revenir à notre histoire, je me suis posé le défi d'apprendre Tristan et Isolde en 3 jours. Puis, je me suis rendu aux répétitions et nous avons fait le concert. Salle Pleyel. Et j'ai passé un très bon moment.
Vous pensez que ça a contribué à vous faire nommer directeur musical du Philharmonique de Radio France?
Alors, c'était en octobre 2012, quelques mois après qu'on soit venu me rendre visite à Helsinki pour me proposer ce poste de directeur musical. Ça a été très facile pour moi d'accepter. À ce moment-là, je connaissais très bien les musiciens.
En 2014,
je suis devenu directeur musical désigné, puis en 2015, directeur musical à proprement parler, et me voilà aujourd'hui pour la 8e année déjà.
Il l'avait appris en 3 jours, Mikko Franck, ce Tristan et Isolde de Richard Wagner, donné le 13 octobre 2012 à la Salle Pleyel, événement qui a accéléré sa nomination à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'était le 4e épisode des Grands Entretiens avec Mikko Franck, une série proposée par Christian Merlin et réalisée par Gilles Blanchard. Demain, dernier épisode, on essaiera de comprendre à quoi sert le chef d'orchestre. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur l'application Radio France.
C'était les grands entretiens. Tout de suite, retrouvons Création mondiale d'Anne Montaron. Bonne soirée à l'écoute de France Musique. Il est pianiste et compositeur. Il enseigne également l'orchestration. Il a fondé un sextet de jazz qu'il a appelé Double Celli. Olivier Calmel est le compositeur de la semaine dans nos brèves sonores. Chaque jour, avec les violoncellistes d'un quatuor tout neuf, Xavier Philips, Héloïse Luzzati, Anne Gastinel et Patrick Longo, nous entrons dans l'un des chapitres de Ce que disent les bêtes, une page toute neuve dans laquelle le compositeur laisse percer son désarroi face au despotisme et extrémisme politique. Orwell est tout près, sa ferme des animaux aussi. Aujourd'hui, jeudi, 4e volet de la suite, Tyrannie ou l'avènement de la dictature, une miniature qui s'ouvre dans la noirceur.
Ça commence par ces harmoniques et cette noirceur, et bien évidemment, c'est le moment où Napoléon, puisqu'il s'appelle comme ça, va prendre le pouvoir. Il se trouve que c'est un cochon, ça aurait pu être un ringondin, que c'était pareil, mais il est clair que là, à ce moment-là, on a conscience qu'il y aura un avant et un après, et que finalement, le choix qui a été fait d'un nouveau système politique ne résout rien, puisque ce n'est pas le problème même du système politique en lui-même, mais la façon dont on l'articule, et la séparation des pouvoirs, bien évidemment, et le fait de s'assurer qu'il n'y ait pas de groupe ou d'individu qui a arrive à tirer son épingle du jeu. Voilà, donc ce mouvement, c'est peut-être le plus saturé, celui où j'ai le plus utilisé ce qu'on appelle le ponticello, la saturation du violoncelle, qui est proche d'une guitare électrique, quelque chose comme de cet ordre-là.
C'est parti, mon petit.
Tyrannie, le quatrième fragment de Ce que disent les bêtes, dans la version toute chaude encore enregistrée le 23 mai dernier. Tyrannie, l'avènement de la dictature, le quatrième fragment de Ce que disent les bêtes, musique d'Olivier Calmel, pensée pour quatre amis violoncellistes, quatre complices, la fine fleur du violoncelle, Anne Gastinel, Xavier Phillips, Patrick Langot et Héloïse Luzzati. Un quatuor qui en réalité est la réunion de deux duos, c'est ce que nous dit Héloïse.
Il y a l'équipe d'en bas et puis l'équipe d'en haut. Avec Patrick, on se répond tout au long quand même de cette pièce, on se colle au basket, même beaucoup.
On se soutient.
Et dès qu'on se désolidarise, on se demande même est-ce que vraiment c'était écrit comme ça. Enfin, et puis c'est pareil pour Anne et Xavier. Dans tous les mouvements très rythmiques, on retrouve vraiment cette opposition de 2 plus 2.
Suite et fin de cette allégorie musicale demain. C'est le moment de retrouver Françoise Monteil pour les Trésors de France Musique. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Anne, à demain.
Les Trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous au programme aujourd'hui, la seconde partie du portrait en concert de John Nelson, une émission de Daniel Laruelle diffusée en 1988 à l'occasion de la venue à Paris du maestro américain. John Nelson nous parle des problèmes qui peuvent se poser lorsqu'il rencontre un orchestre pour la première fois. Il évoque aussi le répertoire lyrique et nous confie la liste des disques essentiels qu'il emporterait sur une île déserte. Cet entretien était illustré par les extraits d'un concert enregistré le 23 janvier 1988 avec le nouvel orchestre philharmonique de Radio France que John Nelson était venu diriger à Paris. Voici, pour débuter, le second volet de cette émission, l'une des œuvres inscrites au programme de ce concert, la suite pour orchestre de Gabriel Fauré, Péléa et Mélisande.
de Gabriel Fauré, Péléas et Mélisande, musique de scène opus 80, enregistrée lors du concert donné le 23 janvier dernier par le nouvel orchestre philharmonique sous la direction de John Nelson, objet ou plutôt sujet de ce portrait puisque c'est lui qui parle. Le programme se poursuivait avec la mère de Claude Debussy. Mais avant d'entendre cette œuvre, John Nelson, qui aime pouvoir communiquer, nous parle de l'expérience du chef qui rencontre un orchestre pour la première fois, des barrières, surtout linguistiques, qui peuvent surgir, et de la façon qu'il a trouvée pour résoudre ce problème. Encore une fois, c'est là la voie du bon sens.
That can be a very interesting experience.
Intéressant.
Sometimes it can be difficult, other times
parfois
it can
difficile,
be magic. Magic.
Parfois c'est de la magie pure.
I remember when I worked with the Nouvelle last year,
je me souviens l'année dernière, quand on a fait la Symphonie Fantastique
magic.
Avec le NOP,
from the first
magique.
Rehearsal, it was incredible. It was the mix
dès la première répétition,
of people that were in the orchestra that
c'était le mélange de gens qui étaient dans l'orchestre.
And I love this orchestra.
J'adore cet orchestre.
A very gentil, very sympathetic.
Il est très
orchestra.
Civilisé, très sensible.
But I am sometimes frustrated
mais
with the lack of being able to speak in their language.
Je suis frustré de ne pas parler la langue de l'orchestre. Et ça devient une barrière.
Je peux parler français un peu dans la répétition. Toutes les choses musicales, c'est un peu facile pour moi. Mais pour parler, oui, pour parler, to converse, c'est pas possible pour moi. And you want to speak with
et
an orchestra.
On veut parler
so
à l'orchestre.
To know them.
Pour les connaître
and
les musiciens.
To know you, how you feel about the music.
Puissent vous connaître,
and
savoir ce que vous pensez de la musique.
To me.
Donc pour moi ça devient une
and
barrière.
Sometimes it's a barrier to good music making.
Quelquefois c'est une barrière à la musique.
Well, I've ordered my life. I've tried to make a planning.
J'ai essayé d'organiser ma vie.
Which keeps me in France or with French orchestras.
Pour rester avec des orchestres français en France avec la Suisse romande.
So that pendant 2-3 ans, learn the language
absolutely,
as well.
Absolutely.
Pour apprendre
and
la langue.
It comes better and better and better. And then I have a plan to spend 2 or 3 years in Germany.
Puis ensuite, j'irai passer 2-3 ans en Allemagne.
Mostly in Germany.
Surtout
Germany,
en Allemagne.
So I can learn that language.
Pour apprendre
and
l'allemand.
I think that's really all I need.
Puis ensuite, je crois que c'est tout ce dont j'ai besoin.